7h18, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
On commence ce matin avec Apple parce que là, on ne sait pas trop, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal? Quelle est la santé financière de Apple?
Ben, faut mordre dans la pomme, Paul, faut mordre dans la pomme. Écoute, ce qui arrive avec Apple, c'est qu'évidemment, tu as une locomotive qui est l'iPhone. Quand l'iPhone va, tout va, on dirait Obélix. Tu sais, quand ça va bien, mais là, depuis quelques mois, on avait tenté une expérience, c'est-à-dire de commencer à vendre des téléphones un peu chers, là, tu sais. 1600, 1700, 1800 $, ça commence à faire beaucoup d'argent pour le petit Canadien moyen de 50 000 $ par année. Alors, les ventes n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on voulait avoir. Et Warren Buffett a dit un jour, il dit, écoutez, j'ai compris une chose, j'ai compris Apple quand ils sont mis à vendre des téléphones, c'est une compagnie qui vend des téléphones. Et quand on regarde les états financiers, c'est ça que ça dit. Si l'iPhone tire les revenus, tout le reste des services vont se vendre aussi, tu sais. Ce qui est bien maintenant, tu vends iPhone, la personne est habituée à l'environnement, tu as un Mac, tout ça s'intègre, les appels, le cloud, tout ça. Donc, ça te fait vendre un environnement au complet et une fidélisation. Donc, tu te retrouves avec des gens qui sont fidèles par habitude, par marque, et ça se reflète dans les états financiers, même si les ventes sont pas à la hauteur de ce qui était attendu, c'est moins pire qu'on pensait, et donc, et là, Paul, moins pire qu'on pensait veut dire 20 milliards de bénéfices nets pour un trimestre sur 84 millions de ventes, tu sais, ça, milliards de ventes, ça va quand même bien, là. Tu sais, on a quand même une marge de 23,7%. C'est énorme, là. Tu vends des ordinateurs, des téléphones, donc ta marge, tu vas la chercher où? Dans des services. Mm-hmm. C'est quand les investisseurs ont vu la section AWS d'Amazon voir une croissance de la marge qu'ils ont dit « Hey, chez Apple, c'est une voie d'avenir aussi, on va surveiller ça. » Donc, pour l'instant, on génère beaucoup de liquidités avec les opérations, donc on est vraiment correct. On est loin d'une compagnie de taxi, on est à l'autre bout du monde. Puis, l'action en bourse a perdu beaucoup depuis octobre. On est passé de 228 $ à 163. Mais bon, hier, 5 % de gain, donc au total, ça va, mais on se demande depuis Steve Jobs est mort, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que Apple va nous inventer comme besoin qu'on ne savait pas qu'on avait? Tu sais, parce qu'il y avait des montres, il y avait des iPads. Mm-hmm. Et là, ce sera quoi la prochaine chose?
Mais c'est vrai qu'ils ont pris une tendance vers des produits très chers. Tu sais, je pense que l'iPad, là, la dernière mouture du iPad Pro, là, ça commence à être assez élevé là, comme prix.
Pour regarder ta presse plus, ça commence à faire cher. Ouais. Il y a aussi les entreprises qui peuvent se dire, à un moment donné, hey, les employés, là. C'est bien beau, là, mais je pense qu'on va virer à un autre environnement parce que on peut avoir le téléphone à moitié du prix pour la même utilité. Puis comme on a 200 vendeurs, savez-vous quoi? On va y penser deux fois.
Bon, la question, il y a comme ça en économie, là, puis en finances personnelles, des questions qui reviennent. Louer ou acheter?
Serait-ce le temps de louer? Là, hier, j'ai partagé un article du Huffington Post qui soulignait une analyse de la Banque nationale qui dit dans les grands marchés canadiens surtout, mais dans le Canada en général, il semble qu'on soit dans une période de location. C'est-à-dire que l'acheteur n'en a pas tant que ça pour son argent présentement. On parle pas sur 25 ans, on parle pas dans un secteur précis. On parle de dire que le coût mensuel du locataire est implicitement dans le moment relativement bas par rapport au coût que ça coûte au propriétaire. Et là, les gens, écoute, ça fait réagir les gens. Les gens qui sont propriétaires sont fâchés parce qu'ils vont dire « Non, j'ai fait un bon investissement. » Et ceux qui sont locataires sont fiers, tu comprends? Mais il y a une pensée dans notre imaginaire collectif que c'est une force d'épargne. Et c'est vrai, ça vous force à payer. Mais si vous aviez, par exemple, une facture mensuelle sur votre REER qui vous forçait à épargner, ce serait aussi d'épargne forcée. Mais quand un propriétaire d'impôts fonciers d'immeubles au Québec paye des taxes foncières de 3000 $ par exemple, que ses prix de loyer sont réglementés, que l'intérêt a une tendance à la hausse, que le prix des immeubles est surévalué par rapport à la capacité de générer des revenus, que les frais de condo par les contracteurs sont comment? On met les frais de condo bien, bien bas pour les ventes. Et après ça, un an, deux ans plus tard, le syndicat de condo se dit « Hey, ça marche pas ça, faut les augmenter ». C'est le cas de beaucoup de copropriétés. Tu as de l'impôt sur la revente de la portion locative.
Mais la loi n'a pas été changée justement pour les forcer à avoir
un minimum.
Des... Oui, c'est ça.
Un minimum, Paul. Mais tu sais, je te donne un exemple.
C'est peut-être pas assez non plus.
Il y a un projet à côté de chez nous qui disent 20 mois de frais de condo gratuits à l'achat d'un condo. Hey, là, tu comprends que tout le monde capote. Là. Mais là, je vais te le calcul, là. T'sais, si tu achètes un condo de 550 000 puis on te donne, je sais pas au moins, 6 000 de frais gratuits, là, quand on a mis les frais de condo au minimum, ça demeure qu'on aurait pu te vendre là, à 540 000 puis laisser faire la gratuité, tu comprends? Des fois, c'est juste du marketing. Il y a aussi le risque de crédit. Si tu es propriétaire de l'immeuble, puis il y a un problème, c'est toi qui l'assumes, ton locataire te paie pas, tu l'assumes. Coût de renonciation d'investir ailleurs. Beaucoup de gens sous-estiment que pendant que les gens qui ont de l'immobilier paient de l'intérêt, surtout s'il n'y a pas du locatif, les gens qui ont des placements, eux autres, font du rendement. Donc, c'est le double rendement qui fait mal. Et on sous-évalue souvent le temps de gestion, la responsabilité légale, la gestion des états financiers, les réunions de partenaires quand tu es en copropriété. Mais il n'y a rien de noir ou de blanc, parce que aussi le locataire a cette liberté de partir quand il veut relativement, d'être protégé relativement contre une hausse de loyer. T'as pas de stress d'avoir une fissure dans la fondation, au pire tu te sauves quand l'immeuble s'écroule, tu sais, et t'as pas le risque de devoir sortir 15 000 piastres pour payer la toiture qui commence à couler du jour au lendemain pendant la nuit. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Évidemment, l'avantage des propriétaires, on fait un gain en capital non imposable pour la portion qu'on habite. Ça, ça demeure vrai et on profite du gain de valeur. Mais c'est un défi qui est lancé, c'est une discussion. Locataire ou propriétaire, parlons-en.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée, 7h23.